Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
There is another prologue. Another introduction to the swelling act of sex.
Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, nouveau rendez-vous sur Radio Campus, Paris entièrement dédié aux musiques de jeux vidéo. Du jazz au rock en passant par l'électro, de la musique 8 bits qui fait bip bip jusqu'aux orchestres symphoniques, la musique dans le jeu vidéo a accompagné les évolutions du média. Des premières pistes en boucle et en midi des années 70 et 80, la musique de jeu vidéo a progressivement trouvé sa place au sein de ce média protéiforme. D'abord parent pauvre de cet art encore très jeune, elle a aujourd'hui un rôle capital dans l'immersion, la définition d'un univers, mais aussi l'interaction avec le joueur puisqu'elle se déclenche à des moments bien précis. Elle participe ainsi de la mise en scène de l'œuvre comme l'a fait bien avant elle la musique dans le cinéma. Posez vos manettes, vos claviers et vos souris, ici on s'intéressera aux compositeurs, souvent dans l'ombre et inconnus du grand public. On s'intéressera beaucoup au rôle qu'a joué une bande originale dans le développement de tel ou tel jeu et le contexte dans lequel elle a été composée. Et puis tout simplement, je vous propose de partir en voyage. Un voyage qui rappellera des souvenirs plus ou moins enfouis aux moins jeunes d'entre vous, puisqu'on mélangera sans complexe des vieilleries poussiéreuses et parfois limite indignes de passer en radio à des choses beaucoup plus récentes, voire actuelles. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une émission rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Cette semaine dans le Pixel Music Radio Show, une sélection musicale très éclectique avec des jeux extrêmement connus et d'autres nettement moins. En dehors de quelques escapades, on va surtout rester dans les années 2000, une décennie qui aura été marquée par la démocratisation du jeu vidéo et une reconnaissance artistique qui s'affirme. Pour ce premier titre, j'ai choisi un jeu assez emblématique du statut d'œuvre d'art que le jeu vidéo était en train d'acquérir. Nous sommes en 2000, il n'y a pas eu de gros bugs informatiques, hashtag on va tous mourir, ouf, tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, pas pour tout le monde, puisqu'à l'époque, Sega, constructeur historique de consoles, tentait justement la console de la dernière chance. Après des échecs successifs, la maison mère de Sonic, le hérisson, accusait le coup, les comptes aussi, et l'action en bourse, n'en parlons pas. Et cette console qui devait remettre Sega dans les esprits de tout le monde, comme à l'époque de la Mega Drive, eh bien c'était la Dreamcast. Une console qui est devenue totalement culte pour une partie des joueurs, d'abord parce qu'elle a été un échec commercial, que la PlayStation 2 l'a précipité vers la sortie et que Sega s'est retiré en 2001 du marché des constructeurs pour devenir éditeur et développeur. Et ensuite, parce qu'en plus d'être une bécane au look sympa et aux fonctionnalités complètement dingues pour l'époque, elle a accueilli des chefs-d'œuvre absolus. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui est tout aussi culte que la console. Il s'agit de Jet Set Radio, un jeu qui a marqué à plus d'un titre. D'abord parce que son gameplay était unique, elle est d'ailleurs restée, le principe étant de se déplacer en roller dans un monde assez ouvert et de recouvrir certains endroits de graffiti. Si le titre n'a pas fait polémique, c'est parce que son ambiance est totalement déjantée, très bon enfant, ultra second degré avec un graphisme en cel shading, donc un rendu très cartoon, et j'y viens enfin, une bande originale qui est entrée au panthéon des musiques de jeux vidéo. Qui dit jeu hommage à la culture urbaine, dit funk, hip-hop, mais aussi de l'électro et d'autres pépites pop ou rock très japonaises. Plusieurs compositeurs ont bossé sur Jet Set Radio, certains japonais, d'autres occidentaux, leur point commun étant une coolitude absolue dans le rendu musical. Un Pixel Music Radio Show spécial sera consacré à Jet Set Radio, mais en guise de mise en bouche, je vous propose d'écouter un titre composé par Richard Jacques, qui comme son nom ne l'indique pas, est britannique. Il avait 30 ans au moment des faits, mais il travaillait pour Sega depuis quelques années déjà. À son actif, quelques titres au hasard comme Daytona USA, Sonic Air ou encore Metropolis Street Racer, puis Headhunter. Pour Jet Set Radio, il a composé quelques titres et contribué avec les autres artistes à donner au jeu cette patte reconnaissable immédiatement, même sans voir le jeu sur un écran. C'était un peu long comme présentation, mais sur cette BO, le contexte était particulièrement important. Le morceau s'appelle Everybody Jump Around, composé par Richard Jacques pour Jet Set Radio chez Sega.
The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats.
One, two, three.
But that was too soft.
Richard Jacques avec le morceau Everybody Jump Around, issu de la bande originale de Jet Set Radio, que je vous conseille par ailleurs d'acheter immédiatement sous peine de rater votre vie.
Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
Des rues de Shibuya, on va bouger à Montpellier, car c'est dans cette ville ensoleillée que l'éditeur-développeur Ubisoft a implanté l'un de ses innombrables studios de par le monde. Ubisoft, le troisième éditeur mondial de jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires, est probablement actuellement le premier en termes d'influence artistique sur l'industrie, que ce soit sur les blockbusters comme Assassin's Creed ou la scène plus indépendante avec des jeux comme Outland ou From Dust. Un peu entre les deux, on trouve le studio d'Ubisoft Montpellier dirigé par Michel Ancel. Si ce nom vous évoque quelque chose, c'est parce qu'Ancel est le créateur de Rayman, un jeu que vous connaissez à peu près tous et dont le premier épisode était sorti en 1995 sur la PlayStation première du nom. Depuis, ce grand créatif un peu touche-à-tout a travaillé sur des jeux comme King Kong en collaboration avec Peter Jackson et d'autres plus confidentiels comme Beyond Good and Evil. Entre-temps, il a aussi eu le temps de mettre au monde Les Lapins Crétins, et là je pense que tout le monde connaît, à moins d'avoir été kidnappé par des Mujahideen en Afghanistan depuis 7 ans au moins. Les univers de Michel Ancel sont toujours extrêmement soignés avec une patte très marquée. L'univers de Rayman, très coloré, oscille entre poésie et asile psychiatrique. Les personnages sont pour la plupart totalement barrés et plutôt du genre facétieux. En 2011, Rayman, qui avait été éclipsé par le succès mondial des Lapins Crétins, a fait un retour dans la classe la plus totale. Il s'agit de Rayman Origins, toujours un jeu de plateforme. Le jeu est en 3D, mais en vue de côté, comme les Sonic et Mario du bon vieux temps. Graphiquement, il est à se décrocher la mâchoire et à laisser traîner sa langue par terre. C'est coloré, c'est frais, c'est en HD. Il y a des milliers d'animations dans tous les sens. Bref, c'est un pur régal, mais l'esprit de ce Rayman haut en couleur ne serait pas ce qu'il est sans le travail du compositeur des musiques. Il s'appelle Christophe Héral et travaille régulièrement avec Michel Ancel et son équipe. Non seulement la BO en elle-même est géniale, mais en plus, et c'est ça la spécificité de la compo pour un jeu vidéo, les musiques font carrément partie du gameplay, puisque dans certaines scènes, les notes de musique sont jouées en fonction des actions du joueur. Pour en revenir aux compos en elles-mêmes, elles sont à l'image du jeu, rafraîchissantes, avec un soupçon de naïveté maîtrisée qui rappelle un certain cinéma d'animation pour lequel Héral travaille également par ailleurs. On peut y entendre du didgeridoo, du ukulélé, du djembé et pas mal de piano. C'est une BO qui respire la bonne humeur et qui peut également partir dans des délires ultra jouissifs, exactement comme ce que vous entendez derrière ma voix depuis le début de la séquence, un morceau qui s'appelle Glouglou et qu'on peut écouter dans des niveaux sous-marins. Celui qu'on va écouter dans quelques instants, vous pouvez l'entendre dans le tout premier niveau du jeu. Il porte d'ailleurs bien son nom puisque le morceau s'intitule A Slap, A Happy Start, traduction, une baffe, un bon début, et ça résume plutôt bien l'esprit joyeusement décalé de Rayman Origins, A Slap, A Happy Start, donc par Christophe Héral. C'était Christophe Héral avec A Slap, A Happy Start sur la BO de Rayman Origins, édité chez Ubisoft. Vous n'êtes pas en train de jouer car vous écoutez le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris.
Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
On reste encore un peu dans les univers champêtres puisque la prochaine musique est tirée du jeu Botanicula. Si certains esprits verront dans le titre une racine vaguement insultante, il fait plutôt référence à la botanique et plus largement le monde des plantes, des arbres et des insectes. Botanicula, c'est un jeu développé par le studio indépendant Amanita Design, sorti en 2012 sur PC et Mac en téléchargement. C'est une petite perle pleine de poésie et d'insouciance. L'univers qu'il met en scène, eh bien c'est tout simplement un arbre, au sein duquel vivent tout plein d'insectes au design mi-cartoon, mi-rétro, dont vous dirigez 5 d'entre eux. L'objectif étant de pointer et cliquer dans le décor pour résoudre des énigmes, c'est ce qu'on appelle un point and click. Botanicula est un jeu très accessible, simple, intuitif et limite contemplatif. Sa musique reflète également cet esprit un peu zen, bisounours, mais aussi facétieux et ouvertement naïf. La BO a été composée par DVA, qui est un duo tchèque, comme le studio de développement, est composé de deux membres, Bara Kratochvilova et Jan Kratochvil. La première, oui car Bara est un prénom féminin, la première donc assure le chant, tandis que Jan est un multi-instrumentiste accompli. Il mélange les instruments électriques à d'autres acoustiques, avec du banjo, de la clarinette, des boîtes à rythme et tout ce qui touche également à la toy music. Depuis 2008, ils ont sorti 6 albums, dont la BO de Botanicula, pour laquelle ils ont d'ailleurs reçu le prix de l'excellence audio au Festival du jeu indépendant 2012. Le morceau choisi s'appelle Jushu, c'est le thème principal du jeu et le plus mélodique. Entre guillemets, la BO étant composée de pas mal d'expérimentations et d'ambiances très organiques, ce qui rappelle évidemment l'univers du jeu Jushu de DVA dans le Pixel Music Radio Show. Vous êtes dans le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. Vous venez d'entendre Jushu du duo tchèque DVA, extrait de la bande originale du très mignon et sympathique jeu Botanicula.
Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
Qui dit pixel music dit pixel dit rétro. Le prochain titre qu'on va s'écouter est tellement connu que vous l'avez probablement déjà entendu au moins une fois dans votre vie, ne serait-ce que chez un ami quand vous étiez enfant ou ado. C'est l'instant nostalgique puisqu'il s'agit de Sonic, le hérisson bleu de Sega qui a fêté en 2011 ses 20 ans. Comme quoi, tous les hérissons ne finissent pas écrasés sous les roues d'une voiture, ça fait plaisir. Retour en 91, c'est l'époque de la guerre industrielle entre deux mastodontes, Sega et Nintendo. Nintendo domine clairement le marché, on est à l'époque de la Super Nintendo et Mario est déjà une superstar mondiale, le plombier moustachu étant devenu la mascotte officielle de Nintendo depuis les années 80. Sega, qui n'est pas prêt à laisser tomber, se décide alors à se doter d'une mascotte aussi emblématique que Mario. C'est Yuji Naka qui se voit confier le projet et après plusieurs essais, c'est ce hérisson rondouillard et super rapide qui est adopté. Il est bleu comme la couleur du logo de Sega et en opposition au rouge de Nintendo et de son Mario. Ce n'est d'ailleurs pas la seule opposition, Mario est associé à un public familial et enfantin. Il est lent, très poli et serviable puisqu'il s'éclate à sauver une princesse enlevée 1000 fois sans jamais arriver à la pécho. Bref, Sonic lui a été conçu pour s'adresser aux ados et jeunes adultes. Il est rapide, péchu, un brin arrogant. Bref, c'est l'antithèse de Mario, même si l'univers du hérisson reste malgré tout très coloré et cartoon. Le personnage est charismatique, la manière de jouer est originale pour l'époque car il faut foncer à toute vitesse tout en restant assez prudent pour éviter les pièges. Sa speed, c'est beau à pleurer, bref, il ne manquait plus que des musiques à la hauteur de cette petite révolution. Sega fera appel à monsieur Masato Nakamura, qui ne vient pas du tout de l'industrie du jeu vidéo puisqu'il appartient au groupe japonais Dreams Come True, dont il est le guitariste. Le travail de composition que va lui demander Sega est donc très différent de ses habitudes, puisque composer à l'époque pour un jeu vidéo implique de lourdes contraintes techniques et une limitation dans la complexité des sons et leur rendu, et pourtant il s'en sortira avec les honneurs puisqu'il livre des compos vraiment honnêtes pour l'époque et surtout totalement dans l'esprit du jeu imaginé par Yuji Naka et ses acolytes. Par la suite, les musiques des jeux Sonic ont oscillé entre le sympa et le carrément honteux, mais ce premier épisode fait honneur à la série du point de vue musical. Le titre que je vous propose d'écouter, ou très probablement de réécouter pour la plupart d'entre vous, s'intitule Green Hill Zone, qui est le nom du tout premier niveau du tout premier Sonic, sorti en 1991 sur la Mega Drive de Sega. Et ce sera un carton planétaire dont Nintendo aura même un peu peur au début. En tout cas, Sega, c'est plus fort que toi. We'll be right back. Green Hill Zone, tiré de la BO de Sonic l'Hérisson, sorti en 1991 et édité bien évidemment par Sega. Vous n'avez pas encore rebranché votre vieille console car vous êtes trop occupé à écouter le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. Avant de refermer cette parenthèse rétro gaming pour revenir dans l'ère de la HD et des effets spéciaux qui tuent la tronche, je voulais vous parler d'un jeu qui fera le lien entre les deux époques puisqu'il s'agit de Super Meat Boy, paru en 2010 sur PC, Mac et Xbox 360. Disponible à l'achat uniquement en téléchargement, il est l'un des plus beaux doigts d'honneur à l'industrie des blockbusters. Développé de manière indépendante par deux mecs un peu tarés, Edmund Macmillan et Tommy Refenes, Super Meat Boy est un magnifique hommage à l'époque des consoles 8 bits se présentant comme un jeu de plateforme à la Super Mario Bros, dont il partage d'ailleurs les initiales, comme c'est étrange. Super Meat Boy est un jeu délicieusement old school et donc d'une difficulté à s'arracher les cheveux, mais suffisamment bien pensé et drôle pour ne jamais laisser tomber et retenter encore et encore et encore de franchir ce passage ignoble que vous faites pour la 162e fois. L'univers est bourré de références et de clins d'œil à des jeux des années 80 et début 90. Il est à la fois très cartoon et ultra sadique puisque vous incarnez Super Meat Boy qui est donc un steak. Un steak sur pattes, mais un steak quand même, qui tente de délivrer sa belle, retenue prisonnière par le maléfique et totalement ridicule docteur Fœtus, qui est un fœtus dans un corps mécanique. Évidemment, tout ceci fleure bon la parodie qui tâche, et voir ce pauvre Meat Boy s'écraser 50 fois par niveau dans un bon gros sprotch contre une scie circulaire est carrément jouissif, et pardon à l'association de protection des steaks à pattes. La musique, quant à elle, emprunte l'esprit parodique du jeu avec des compositions heavy metal bien grasses arrangées de façon à ce que le rendu sonne un peu comme de la musique 8 bits. Elle a été composée par DB Soundworks, dont le nom est lui aussi une fausse piste puisqu'il s'agit d'une seule personne, en l'occurrence le musicien Danny Baranowski, qui s'est spécialisé dans la composition de BO pour des films, des jeux vidéo et la télévision. Depuis le succès de Super Meat Boy, il se recentre encore plus sur la scène vidéoludique et s'adapte en fonction de l'univers du jeu. Ce n'est pas spécifiquement un compositeur de musique 8 bits, mais le son que je vous propose d'écouter s'en approche et s'intitule Forest Funk, extrait donc du jeu Super Meat Boy. DB Soundworks avec le morceau Forest Funk, extrait de la bande originale du super jeu Super Meat Boy, super pas cher, super dispo, en téléchargement légal sur le site officiel, super accompagné de la BO qui, aux dernières nouvelles, était offerte avec le jeu. Vous êtes toujours dans le Super Pixel Music Radio Show sur Super Radio Campus Paris.
Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
De la scène indépendante, on va basculer dans la soudaineté la plus totale à celle des blockbusters, ce genre de jeux qui font vendre des consoles par camion et qui justifient leur achat pour certains. C'est le cas de Halo, H-A-L-O, développé par Bungie et à l'origine prévu sur Mac, jusqu'à ce que Microsoft entre sur le marché des consoles et se mette en quête du jeu qui deviendrait indispensable pour les futurs acheteurs de leur Xbox première du nom. Le studio Bungie est racheté par Microsoft qui, avec le titre Halo dans son escarcelle, va foutre une gifle retentissante à l'industrie, une série qui depuis 2001 cumule 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Halo, beaucoup d'entre vous le connaissent, il s'agit d'un FPS, un jeu de tir à la première personne qui prend place dans un univers science-fiction et qui oppose l'humanité à des forces extraterrestres belliqueuses. Jusqu'ici, rien de très original, mais c'est l'ambiance du soft qui va porter le jeu au panthéon vidéoludique en l'installant à sa sortie comme une référence absolue du FPS sur console. C'était en 2001 et toutes celles et ceux qui y ont joué à l'époque doivent se souvenir de leur premier pas sur Halo, ce sentiment d'inconnu, de découverte, d'émerveillement, bref, c'était totalement épique. Et dans Halo, épique rime avec musique, la partition offerte par le compositeur Martin O'Donnell est magistrale et a nécessité un travail titanesque. Le bonhomme avait précédemment travaillé sur des jeux comme Oni ou encore Myst 2 pour les connaisseurs. Le travail sur Halo va prendre une toute autre ampleur puisque Microsoft et Bungie, à coups de millions de dollars, voient les choses en grand pour leur jeu phare. O'Donnell a alors l'idée d'intégrer des chants grégoriens à ses compositions afin de retranscrire l'ambiance mystérieuse qui se dégage de Halo lorsque le joueur explore ce monde inconnu. L'autre aspect est d'ordre mystique puisque les aliens, et on le saura plus tard dans la série, sont dirigés par une caste de religieux fanatiques pour qui la guerre interstellaire est une purification des autres espèces. Un peu plus tôt, je vous parlais du côté épique de l'aventure. Là, Martin O'Donnell va en toute logique s'entourer d'un orchestre, donnant à ses compositions le souffle grandiloquent attendu par Bungie et Microsoft. Alors attention, grandiloquent ne veut pas dire grand guignolesque, l'ensemble reste tout à fait cohérent, crédible et dans une certaine mesure mesuré. La symbiose délicate entre violon, piano, tambour tribaux, chant grégorien et guitare électrique est sublime, et la bande originale de Halo deviendra presque instantanément culte avec un thème principal qui est devenu à lui seul l'emblème de la série, au même titre que son héros, le Master Chief. Ce thème principal, dont l'original est paru en 2001, puis décliné à travers toute la série jusqu'à nos jours, je vous propose en version longue, il s'agit du morceau Truth and Reconciliation sur le premier Halo intitulé Combat Evolved. Petit détail, vous percevrez probablement à un moment une déclinaison typée musique traditionnelle irlandaise. Martin O'Donnell étant, comme son nom l'indique, d'origine irlandaise, il a non seulement parfaitement rempli son contrat, mais s'est en plus fait plaisir en imposant sa touche personnelle, et c'est ce qui fait la marque des plus grands. Tout de suite, Truth and Reconciliation sur la BO de Halo Combat Evolved, paru en 2001. We'll be right back. Truth and Reconciliation, extrait de la bande originale du premier jeu Halo, paru en 2001 chez Microsoft sur Xbox. Pour info, les bandes originales de la série Halo se sont toujours classées parmi les 200 meilleures ventes d'albums au classement Billboard sur leur première semaine de commercialisation. Elles ont également reçu de nombreux prix depuis 10 ans. On quitte Microsoft pour aller faire un tour du côté de chez Sony, et plus précisément à l'époque de la première PlayStation, succès insolent et planétaire de la fin des années 90. En 94, Nintendo et Sega étaient encore les deux ogres à régner sur le marché des consoles. Sega sort la Saturn et Nintendo prépare sa Nintendo 64 qui ne débarquera qu'en 96 et même 97 chez nous. Personne ne croit aux chances du challenger Sony jusqu'à ce qu'un jeu fasse basculer définitivement le marché en leur faveur. Il s'agit de Final Fantasy VII, premier jeu de la série à adopter la 3D et jusqu'ici fidèle aux consoles Nintendo. Son développeur Squaresoft a de grandes ambitions pour le 7ème épisode et notamment la volonté d'inclure des cinématiques en images de synthèse et une musique tirant profit des capacités du CD, chose que ne peut pas leur offrir Nintendo qui va rester sur le support cartouche. Et sur la touche d'ailleurs. En 97, Final Fantasy VII débarque et c'est un raz-de-marée planétaire, devenant le jeu qui va faire vendre des PlayStation par palette entière. Nintendo et Sega sont tout tristes, mais Sony se frotte les mains, tandis que Squaresoft planche déjà sur Final Fantasy VIII, épisode qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. À sa sortie, FF8 est un nouveau succès commercial pour Square, même si parmi les fans, cet épisode reste controversé pour diverses raisons. Il trouve sa voie via un design plus réaliste, abandonnant les personnages à grosse tête et se focalisant davantage sur une histoire d'amour dramatique. C'est le moment de vous parler de Nobuo Uematsu, qui a longtemps été le compositeur mythique des Final Fantasy. Uematsu compose toujours en fonction des personnages, ce qui donne toute la profondeur à ces derniers. Sa musique est donc indissociable du processus créatif des jeux et de leur rendu final. Pour FF8, je vous le disais, c'est une histoire centrée sur un couple. Uematsu va donc laisser libre cours à ses envies de composition romantique. D'aucuns jugeront la partition d'FF8 moins enlevée, voire plus banale que les précédents opus, mais certains thèmes sont tout de même entrés dans la légende, dépassant même le cadre à l'époque plus restreint des joueurs pour toucher un public plus large. Le thème que nous allons écouter s'intitule Liberi Fatali et a fait de la scène d'introduction du jeu l'un des moments cultes de la saga. D'ordinaire dépourvu de chants, les musiques de Final Fantasy s'ouvrent à cette tendance avec ce morceau en intégrant une chorale en latin. C'est ce thème qui donne le ton de ce 8ème épisode, dramatique, romantique, épique et plein d'autres adjectifs en hic. Tout de suite dans le Pixel Music Radio Show, Liberi Fatali, composé par Nobuo Uematsu et extrait de Final Fantasy VIII. We'll be right back.
XL Music Radio Show, Radio Campus Paris.
Dernier morceau de cette sélection qui va nous apporter sérénité, douceur, poésie, mélancolie et paix dans le monde jusqu'à la fin des temps de l'éternité cosmique. Dernier morceau donc, il s'agit de Castle in the Mist, le magnifique thème du non moins superbe ICO. ICO, un jeu paru en 2001 sur PlayStation 2, développé en interne chez Sony et imaginé par Fumito Ueda. Considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand artiste de l'histoire du jeu vidéo, ICO a reçu à l'époque un accueil critique dithyrambique, mais qui malheureusement a été un échec commercial. Totalement éloigné des standards de l'époque, ICO met en scène un jeune garçon enfermé dans une forteresse qui va tenter de s'en échapper en compagnie d'une mystérieuse jeune fille, Yorda, qui semble elle-même retenue dans ce lieu étrange et constamment pourchassée par des ombres qui tentent de la capturer. Le principe du jeu est donc de s'échapper de la forteresse en résolvant des énigmes et en progressant au sein de ce labyrinthe pavé d'embûches. La force du titre réside dans la relation intime et touchante entre ICO et Yorda, puisque vous devez progresser en vous tenant la main. S'instaure alors une relation amoureuse d'une beauté incroyable tant elle est pudique, tacite, silencieuse et mystérieuse. Malgré son échec commercial et son statut d'ovni sur le marché des jeux de bagnole, de foot et de combat, ICO s'érigera en référence absolue et deviendra le symbole et le porte-étendard d'un média jeu vidéo encore jeune et aspirant à une reconnaissance artistique. Les musiques sont signées par Michiro Oshima, une compositrice de renom au Japon. Avec ICO, elle livre tout l'onirisme et la simplicité qui habitent le jeu et va contribuer par des ambiances sonores inquiétantes et parfois désolées à bâtir ce sentiment de solitude et de mélancolie que l'on ressent en jouant à ICO. Le titre que je vous propose d'écouter, Castle in the Mist, est le thème principal du jeu et l'une des seules compositions véritablement musicales, l'ensemble de la bande originale instaurant davantage une musique d'atmosphère parfaitement maîtrisée. Castle in the Mist, tout de suite dans le Pixel Music Radio Show. Thank you. C'était Castle in the Mist, extrait de la bande originale d'Ico, paru en 2001. C'est la fin de ce premier épisode du Pixel Music Radio Show. On se retrouve dans deux semaines, le mercredi à 14h en streaming et en podcast sur le www.radiocampusparis.org. Avant de se quitter, et ce sera une habitude, je vous proposerai à chaque fois un remix d'un thème connu, si possible un peu pourri ou second degré. Pour cette fois, ce sera un remix du thème de Sonic le Hérisson, version métal. Elle a été enregistrée par un illustre inconnu dont je ne connais même pas le nom, puisque trouvé au hasard de mes pérégrinations sur le net. En tout cas, voici ce que ça donne. Excellente journée ou soirée à toutes et à tous.
Mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
There is another prologue. Another introduction to the swelling act of sex.
Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.